pas faux, l'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour tout le monde, bonjour Cindy.
Bonjour Rose, bonjour à tous et à toutes.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est pas faux, l'émission de culture scientifique de Radio Phoenix.
Nous sommes ravis de vous accompagner aujourd'hui comme chaque mardi à midi pour parler science avec différents invités. Nous sommes le mardi 11 février et aujourd'hui nous allons parler de la protection des œuvres d'art et des biens culturels.
Face au développement du trafic illicite d'œuvres d'art et de contrefaçons, des scientifiques ont travaillé au développement d'encres de sécurité permettant de marquer les objets précieux. Margot Gaillard, doctorante en matériaux, mécanique, optique et nanotechnologie à l'Université de Technologie de Troyes, a justement consacré sa thèse à ce sujet. Son objectif, développer une encre contenant de l'ADN synthétique capable d'authentifier et de tracer les objets.
La thèse s'inscrit dans le projet ANR-NOSE, mené par l'unité de recherche lumière, nanomatériaux, nanotechnologie, en collaboration avec le centre de recherche de l'École nationale supérieure de la police et le laboratoire ISOMA. Ensemble, chercheurs, archéologues et forces de l'ordre travaillent au développement d'une encre à base de nanoparticules pour la protection des objets archéologiques. On aura l'occasion d'en parler avec elles. Mais avant cela, c'est l'heure des infosciences de la semaine. Et on commence avec une étude qui révèle des similitudes entre le chant des baleines et le langage humain.
Les baleines en chantant feraient des phrases selon une syntaxe qui leur est propre. L'équipe pluridisciplinaire de 8 scientifiques à l'origine de cette étude a rassemblé 65 000 séquences de chants de baleines enregistrées dans l'océan et les a comparées avec les langues humaines. Et parmi ces séquences, les scientifiques ont identifié des unités sonores construites selon une structure hiérarchique complexe, semblable à la manière dont nous organisons nos mots et nos phrases.
Mais alors la signification des sons des baleines a été percée à jour ?
Pas encore, malheureusement le sens de ces chants reste encore un mystère malgré les études en cours. Plusieurs hypothèses ont déjà été formulées, comme celle selon laquelle ces chants seraient produits seulement par les mâles à destination des femelles. Il pourrait également être une tradition transmise et apprise au sein des groupes de baleines, une hypothèse que les similitudes avec notre langue viennent étayer. La structure de ces chants permettrait, comme pour nous, l'apprentissage d'un répertoire vocal ultra complexe. On continue avec un autre mystère des profondeurs. Des chercheurs ont fait l'observation exceptionnelle d'un diable noir des abysses au large de Tenerife dans les îles Canaries.
Aussi connu sous le nom de baudroie abyssal de Johnson ou Melanocetus Johnsoni, ce poisson légendaire vit habituellement dans les fonds marins entre 200 et 2000 mètres de profondeur. Pourtant, des chercheurs de l'ONG Condric Tenerife ont eu la surprise de croiser un spécimen à quelques mètres de la surface. Ils ont publié la vidéo sur leur compte Instagram mercredi dernier. Cet enregistrement impressionnant pourrait bien être une première mondiale pour cette espèce en surface. Jusqu'à présent, seules des larves ou des spécimens morts avaient été documentés.
Mais alors, comment expliquer la présence de cette baudroie en surface ?
Pour l'instant, la raison n'est pas certaine, mais plusieurs hypothèses ont été avancées. Il aurait pu être malade, s'être fait entraîner par un courant ascendant, ou bien encore être en train de fuir un prédateur. Dans tous les cas, le poisson n'aura survécu que quelques heures après avoir été aperçu. Les chercheurs l'ont ensuite emmené au musée de la nature et d'archéologie de Santa Cruz de Tenerife afin de l'étudier. Janvier 2025 est le mois de janvier le plus chaud jamais mesuré selon l'observatoire européen Copernicus.
Avec une température moyenne de 13,23 degrés, janvier 2025 a dépassé de 1,75 degrés le niveau pré-industriel. Cela fait de lui le 18e des 19 derniers mois pour lesquels la température moyenne de l'air a dépassé la limite fixée par l'accord de Paris.
Et ce record a surpris les scientifiques qui s'attendaient à un léger refroidissement.
Exactement, car cela se produit malgré le développement actuel du phénomène naturel baptisé La Niña dans le Pacifique qui d'ordinaire refroidit temporairement les températures mondiales. Les effets de ce phénomène, court et de faible intensité, pourraient aussi tout simplement arriver légèrement en différé. Mais l'observatoire Copernicus a révélé autre chose. Dans les océans, l'eau de surface a continué à être anormalement chaude en janvier, avec une température de 20,78 degrés. Janvier 2025 se classe deuxième derrière le record de janvier 2024. Les chercheurs de l'université d'Oxford viennent de réaliser une avancée majeure en informatique quantique.
Et oui, pour la première fois, ils ont réussi à relier deux processeurs quantiques distants pour en faire un seul ordinateur. Celui-ci, plus puissant, est capable de réaliser des opérations de calcul quantique complexes. Pour cela, ces processeurs sont reliés avec des photons, des particules de lumière. Grâce au principe de téléportation quantique, l'information va du point A au point B sans se déplacer physiquement, donc quasi instantanément.
Mais alors, qu'apporte cette découverte ?
Eh bien, c'est un pas de plus vers l'Internet quantique, un réseau ultra rapide qui pourrait bien révolutionner la communication et le calcul. On sait maintenant qu'en combinant la puissance de calcul de plusieurs petits modules en réseau, on peut faire des machines puissantes sans devoir augmenter leur taille. Concrètement, cela pourrait permettre de déployer à grande échelle ces superordinateurs quantiques. Une campagne de sensibilisation au tri va être lancée sur les opercules de nos pots de yaourt.
Nous consommons 15 milliards de yaourts par an en France et pourtant le doute plane souvent au moment de mettre son pot à la poubelle. Faut-il le mettre avec les ordures ménagères ou dans le bac jaune? Pour lever le doute, une campagne baptisée Tri ton pot à l'initiative de l'association des fabricants de produits laitiers Saint-Dié-Frais va débuter le 22 février prochain et ce pour une durée de 6 mois. Vous pourrez donc lire sur les opercules de vos pots de yaourt des messages comme « Je vais dans le bac jaune avec mon opercule détaché » ou encore « Pas besoin de me laver pour me trier. »
Et cette campagne concerne près de 500 millions de pots.
Et oui, pour la première fois, la quasi-totalité des marques de desserts ultra frais se sont unies, à l'exception de Danone, face à l'urgence d'inciter les consommateurs au tri. Chaque année, la France paie à l'Europe 1,5 milliard d'euros pour non-atteinte de ses objectifs de recyclage de plastique, alors que près de 25% des yaourts finissent dans la poubelle générale. Et pour terminer ce flash coup d'œil dans le rétroviseur, il y a tout juste 178 ans, le 11 février 1847, naissait Thomas Edison, l'homme d'affaires et inventeur américain.
Connu principalement pour son brevet sur l'ampoule électrique, Thomas Edison a déposé au cours de sa vie plus d'un millier de brevets sur des inventions diverses et variées telles que le microphone ou bien encore la lampe à incandescence. Bien qu'il n'ait pas été l'unique inventeur de ces technologies, il a su les perfectionner et les rendre accessibles au grand public. C'est pourquoi aux États-Unis, on célèbre aujourd'hui l'Inventor's Day, le jour de l'inventeur, en hommage à ses contributions au progrès technologique.
Mais malgré tout, il reste une figure controversée aujourd'hui.
En effet, il est souvent pointé du doigt pour avoir pris le crédit d'invention réalisé par d'autres et pour ses méthodes agressives de commercialisation. Par exemple, lors de la guerre des courants, il a mené une grande campagne de dissuasion vis-à-vis du courant alternatif prôné par son opposant Nikola Tesla. Diffuser de fausses informations sur des accidents mortels, faire pression sur l'État pour qu'il l'interdise, il est même allé jusqu'à aider l'inventeur de la chaise électrique pour qu'il utilise le courant alternatif afin que celui-ci devienne synonyme de mort aux yeux du grand public.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
À ce jour, plus de 52 000 objets sont enregistrés dans la base de données d'Interpol sur les œuvres d'art volées. Considéré comme le troisième trafic mondial après la drogue et les armes, le trafic illicite de biens culturels est aujourd'hui un problème majeur. C'est pourquoi les chercheurs du projet NOSE se sont lancés un défi, créer une encre de sécurité pour le marquage des objets archéologiques.
Pour en parler, nous sommes aujourd'hui accompagnés de Margot Gaillard, doctorante en matériaux, mécanique, optique et nanotechnologie à l'Université technologique de Troyes et membre de l'unité de recherche lumière, nanomatériaux, nanotechnologie et en charge du projet NOSE. Bonjour.
Bonjour.
Alors, avant de parler de votre sujet de thèse, on peut peut-être parler un petit peu de votre parcours. Vous avez obtenu un diplôme d'ingénieur en matériaux à l'Université de technologie de Troyes. Comment vous en êtes venue à vous lancer dans ce domaine ?
C'est ça. Alors, depuis toute petite, j'adore les sciences. Depuis les premières heures de physique, de SVT que j'ai eues, que ce soit même à l'école primaire, avec des introductions, bien sûr, ou alors au collège. Et ensuite, du coup, c'est juste une question d'affinité, parce que j'ai toujours aimé ça. Et voilà, du coup, j'ai continué dans ce domaine-là. Jusqu'au bac et jusqu'à l'après-bac, au post-bac.
Et donc après l'obtention de votre diplôme, vous avez décidé de poursuivre un doctorat. Pourquoi ce choix ?
Exactement. Et au début, ce n'était pas du tout prévu. Mais j'ai eu l'opportunité de faire un stage au sein du laboratoire du coup L2N, le laboratoire nanomatériaux et nanotechnologie, à Troyes, à l'UTT. Et du coup, pendant ce stage, pendant mes études d'ingénieur, j'ai pu découvrir ce monde des nanomatériaux qui m'a aussi fascinée parce qu'on fait clairement un zoom dans la matière. C'était trop intéressant, trop bien. Et du coup, le sujet m'a plu parce que c'était déjà aussi sur mon sujet de thèse. Et donc, mes directeurs de thèse m'ont proposé de faire une thèse sur ce sujet-là. Et donc, j'ai accepté parce que le sujet était incroyable.
Donc on l'a dit, vous êtes aujourd'hui doctorante et votre thèse porte sur le développement d'encres de sécurité à codage intégré pour la protection des biens précieux. En quoi ça consiste exactement ?
Alors c'est exactement ça. Donc en quoi ça consiste ? L'objectif c'est de créer une encre donc, pour protéger les biens précieux. Donc par biens précieux, on entend biens archéologiques potentiellement, mais aussi ça peut être des poteries, des peintures, tous les biens qui ont une valeur à nos yeux, que ce soit une valeur culturelle ou alors une valeur monétaire. Et donc, encre à codage intégré, ça veut dire ajouter un niveau de sécurité à cette encre, donc un codage par le biais de brins d'ADN dans mon cas. Donc en fait, je travaille avec des séquences synthétiques de brins d'ADN qui me permettent de créer un code pour chaque musée, par exemple, et de venir apposer ce code sur les biens culturels. Et donc, l'objectif de ma thèse en soi, le cœur de ma thèse, c'est de réussir à décoder plus facilement ce code-là, ce code ADN, sur l'objet. Parce que en ce moment, les seules techniques qui existent, c'est les séquenceurs ADN. Et ces séquenceurs-là, ça coûte très cher. Et l'objectif, c'est de créer des appareils qui permettraient de décoder ces codes plus facilement.
On reviendra dans un instant sur la question de l'ADN. Mais avant, on avait une petite question. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de travailler à l'échelle nano sur ce projet-là? En quoi les nanotechnologies apportent quelque chose de plus dans ce projet?
Eh bien, alors actuellement, le projet NOSE, c'est vraiment concentré sur le marquage archéologique pour le coup, parce que le projet est en tripartie, donc il y a l'UTT qui réfléchit aux solutions et qui apporte les solutions techniques, mais il y a aussi les archéologues du coup qui nous amènent toute la dimension de ce qui existe au niveau du marquage archéologique. Et ils nous prêtent aussi des morceaux de poterie dont ils ne se servent pas et qui n'ont pas de très grand intérêt culturel pour que l'on fasse nos tests d'encre sur des poteries directement. Et on a aussi la troisième partie qui est en fait le centre de recherche de l'ENSP, donc de l'École nationale supérieure de la police, et qui eux viennent nous apporter la dimension douane et toutes leurs connaissances en termes de contrefaçon et de marquage de sûreté, on va dire. Et donc, du coup, l'objectif, ouais, c'est de répondre à leur demande à eux. Donc, le fait d'avoir les tripartites, on s'est rendu compte que actuellement, les marquages utilisés ne sont pas assez sécurisants. Donc, les marquages actuellement, enfin, tout le monde peut aller voir au musée. C'est simplement un numéro qui est inscrit, donc un numéro de marquage, un numéro d'inventaire qui est inscrit sur l'objet directement au marqueur, ou alors sur une couche de vernis, ou alors sur une étiquette. Donc en fait, ce marquage-là, il n'est pas du tout sécurisant, puisque en un coup de solvant, d'éthanol, on peut l'effacer. Ou alors un coup de disqueuse sur l'objet et on peut l'effacer. Donc au niveau des vols et des contrefaçons, il n'y a rien de plus simple que de prendre un stylo et d'écrire aussi un numéro sur l'objet si on veut faire une contrefaçon de ce marquage-là. Donc l'objectif, c'est de créer un marquage qui est sécurisant, et en plus la dimension nanomatériaux, donc un marquage, ça deviendrait un marquage qu'on ne verrait même plus à l'œil nu en fait. Donc on pourrait savoir que l'objet il est marqué en mettant par exemple des molécules fluorescentes sur l'objet. Et en fait, avec les nanotechnologies, donc les nanoparticules et les segments d'ADN, on viendrait ajouter une dimension de sécurité supérieure dans notre marquage, puisqu'on ne verrait pas cette dimension-là à l'œil nu, et du coup, les gens n'auraient pas envie d'enlever le marquage ou de le faire disparaître. Donc l'objet serait normalement tout le temps marqué.
Vous en avez parlé un petit peu déjà, mais comment on fait exactement pour insérer des informations dans cette encre?
Alors, du coup, moi j'utilise des séquences d'ADN, donc ce n'est pas des séquences humaines de l'ADN qu'on a nous dans notre corps, c'est des séquences d'ADN synthétiques. Donc c'est des séquences que j'achète, qui sont fabriquées par une entreprise. Et donc l'ADN, c'est une suite de ce qu'on appelle des nucléotides. Donc c'est en fait, ces nucléotides, c'est des petites molécules qui viennent former une chaîne. Et donc, la plupart du temps, ces petites molécules-là, on les reconnaît sous forme de lettres. Donc, on a l'adénine A, la thymine T, la cytosine C et la guanine G. Et en fait, donc on a les quatre lettres A, T, C, G qui viennent former comme ça une chaîne. Donc, on appelle ça une séquence d'ADN. Et donc moi, le but de ma thèse, enfin une partie de ma thèse aussi, c'est de réfléchir à justement une correspondance entre notre alphabet et ces lettres d'ADN ATCG. Bon, en fait, l'alphabet français, l'alphabet c'est 26 lettres, Et donc, il faut trouver une correspondance avec ces quatre lettres-là pour coder des informations dedans. Donc, par exemple, pour nos objets archéologiques, on pourrait imaginer une séquence de brins d'ADN qui voudrait dire que l'objet est conservé au Louvre, par exemple. Et donc, venir poser ce brin d'ADN-là dans notre encre sur chaque objet qui est conservé au Louvre pour pouvoir, si un jour une œuvre est volée au Louvre, lui restituer.
Donc, ça veut dire que l'encre serait adaptable selon les objets archéologiques, où ils ont été retrouvés, quand et où est-ce qu'ils ont été stockés.
C'est ça. En fait, on pourrait apposer dans l'encre toutes les informations que l'on souhaite. Donc, on pourrait, par exemple, poser autant de brins d'ADN que d'informations qu'on veut lui coller dessus, en fait. Vous avez dit, ça peut être le musée, ça peut être donc le musée d'observation, le lieu de fouille, l'équipe de fouille qui a trouvé l'objet, où il a été trouvé, etc., etc.
Et dans ce cas-là, est-ce que ça sera possible de modifier ces marqueurs si le lieu...
Alors, modifier le brin d'ADN, vous voulez dire si par exemple on se trompe
Oui, si par exemple on change de musée ou quelque chose comme ça.
Ok, s'il y a un changement de musée, par exemple, ou un prêt de collection, on pourrait imaginer ça, l'idée, ça serait de permettre aussi un archivage directement sur l'objet. On pourrait simplement rajouter une couche d'ADN, entre guillemets, sur l'objet pour rajouter une information. Donc, ça voudrait dire que sur l'objet, il y a écrit les différentes informations de l'objet, son parcours, et comme ça aussi, on pourrait, pourquoi pas... une sorte d'archive de ce qu'a fait l'objet, de ses déplacements, etc. En fait, tout est un peu possible parce que pour l'instant, c'est un projet qui est très exploratoire. On essaye de trouver des solutions aux problèmes directs des archéologues et de la police. Mais en ce moment, vu que on essaye de penser à toutes les solutions. Donc, ça peut être une très bonne idée d'apporter cette vision d'archives sur l'objet directement.
Et donc, vous parliez du séquençage d'ADN, c'est peut-être dur à expliquer comme ça, mais concrètement, comment ça fonctionne? Comment on fait pour faire ce séquençage d'ADN, très concrètement?
Alors, très concrètement, si on parle du séquençage le plus utilisé dans le monde, comment on fait? C'est qu'on vient fixer une molécule fluorescente sur chaque lettre différente. Donc, par exemple, on va fixer une molécule verte qui fluoresce verte, sur les A, une rouge sur les T, une bleue sur les G et une orange sur les C, par exemple. Et donc, petit à petit, on va venir éclairer les brins d'ADN, entre guillemets, et on va avoir différentes couleurs qui vont apparaître. Et donc, c'est vu qu'on sait quelle couleur correspond à quelle lettre, quel nucléotide, et bien on va être capable comme ça de connaître les séquences entières d'ADN. Donc ça, c'est le séquençage le plus utilisé dans le monde. Après, il y a plein de techniques différentes. Moi, actuellement, j'utilise un séquenceur ADN qui est très petit et qui est constitué de ce qu'ils appellent des nanopores. Donc, c'est des tout petits trous dans lesquels je viens faire défiler, donc passer mes brins d'ADN un par un. Et en fait, chaque nucléotide, donc chaque lettre, va passer dans le pore et va avoir une réponse électrique différente à son passage dans le pore. Et donc, ça va me sortir un signal électrique qui va varier en fonction de la lettre. Et comme ça, je suis capable de reconnaître, pareil, ma séquence d'ADN lettre par lettre. Donc, il y a plusieurs techniques différentes qui existent. Moi, c'est celle que j'utilise. Et donc ça me permet, par exemple, de faire mes tests de vieillissement d'ADN, parce qu'il y a cette partie-là aussi qui est super importante dans le projet. C'est qu'il faut que je vérifie que mes brins d'ADN vont survivre, entre guillemets, assez longtemps sur l'objet, pour permettre justement pour qu'on soit capable de les récupérer même après des dizaines et des dizaines d'années. Donc il y a tout ce volet-là aussi à étudier sur le vieillissement des brins d'ADN. Et donc je peux me servir du séquençage pour vérifier que mes brins d'ADN sont toujours les mêmes et n'ont pas changé, ne se sont pas cassés, etc., etc.
Et pour l'instant, est-ce qu'on sait combien de temps ça durerait un petit peu, cette encre ?
Eh bien, pour l'instant, tout est en développement. Donc, on est en train justement de réfléchir à comment protéger ces brins d'ADN-là pour qu'ils vivent le plus longtemps sur les brins d'ADN. Mais à l'image des cold cases qui sont actuellement résolus, alors que certains meurtres ont eu lieu il y a des dizaines et des dizaines d'années, donc ces cold cases-là sont résolus parce qu'on retrouve des fragments d'ADN sur des objets d'il y a du coup des dizaines d'années, donc rien n'est impossible, quoi. Je pense qu'il y a forcément un moyen de protéger ces brins d'ADN pour permettre de les récupérer même très longtemps après.
On l'a rapidement évoqué en introduction, mais c'est quoi l'enjeu de développer une telle encre pour la protection des œuvres d'art et des objets archéologiques ?
L'enjeu, du coup, c'est de permettre de remettre un objet dans son contexte, parce que actuellement, il y a beaucoup d'objets, comme vous l'aviez dit en intro, qui sont volés et connus d'Interpol et qui sont recherchés. Et donc, l'idée, ça serait d'apposer un marquage sur tous ces objets, tous les objets qu'on trouve et qui ont une valeur, pour qu'on puisse les redonner à leurs propriétaires une fois qu'on les a retrouvés. Parce qu'actuellement, l'un des gros problèmes aussi, c'est qu'il y a tout un tas d'objets qui sont connus d'Interpol et qui ont été volés. Mais il y a aussi énormément d'objets qui ne sont pas reconnus comme volés. Et donc, c'est un problème puisque quand on les retrouve, on ne sait pas trop où ils vont et on ne sait pas trop où les mettre. Donc, l'idée, c'est d'apporter à chaque objet un marquage qui permette de le replacer dans son contexte, que ce soit son contexte normalement actuel, c'est-à-dire son musée de conservation, s'il a été conservé dans un musée, ou alors même son contexte archéologique en apposant les informations, comme vous l'avez dit avant, sur le lieu de fouille, la date à laquelle il a été découvert, etc., etc. En fait, on pourrait comme ça avoir un archivage directement sur l'objet, avec du coup un marquage qui est sécurisant et avec des niveaux de sécurité très élevés.
Et donc l'application de cette encre, elle reviendrait aux archéologues ou aux conservateurs de musées qui sont, soit qui découvrent les œuvres, soit qui les stockent. Ce sera à eux de faire la démarche.
C'est ça. Parce que du coup, ouais, actuellement, ils ont des marqueurs BIC et ils écrivent au marqueur juste un numéro. Donc l'idée, ça serait de leur donner des solutions d'ADN, enfin d'encre, qu'ils puissent déposer sur les objets. Donc une solution qui correspond à tel lieu de fouille, une autre à un autre lieu, etc., etc.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Nous sommes avec Margot Gaillard pour parler du projet NOSE dédié au développement d'une nouvelle encre de sécurité pour le marquage des objets archéologiques. Et donc, cette encre, elle sera directement appliquée sur les objets. Comment faire pour qu'elle y adhère durablement sans abîmer ses œuvres d'art ?
L'idée, c'est de la protéger dans un vernis, parce que les vernis, c'est des matières qu'on sait enlever, donc avec de l'acétone, avec tout un tas de solvants, enfin, y a plein de possibilités. Et l'idée aussi, c'est que mes petites nanoparticules et mes petits brins d'ADN ne rentrent pas dans la matière. Parce que certaines matières sont poreuses, comme par exemple les os, les ossements humains, etc. Donc l'idée, c'est que toutes les nanoparticules et les brins d'ADN restent dans la couche superficielle, si on veut, du marquage. Et que ça n'adhère, pas durablement à l'objet. Là, vous pourriez me demander, mais dans ce cas-là, avec un vernis, ça va se voir. Et l'idée, c'est que non, puisque on pourrait appliquer ce marquage-là directement sous forme de spray, en fait. Donc, on pourrait imaginer un spray d'encre. Donc, j'appelle ça de l'encre, mais on pourrait dire une solution un peu visqueuse qui contient toutes mes petites nanoparticules et mes petits brins d'ADN. Et ouais, l'idée, c'est que ça puisse être appliqué en grand nombre sur l'objet pour qu'il y ait toujours une possibilité, une petite trace quelque part et qu'on puisse la récupérer, l'analyser et retrouver l'historique de l'objet.
Donc, si cette encre, si elle est apposée comme ça sur les objets, est-ce qu'il n'y a pas un risque que pendant, par exemple, la restauration des tableaux, elle soit en fait tout simplement retirée? Est-ce que ça reste malgré toutes les restaurations qu'ils peuvent avoir sur les objets?
Bah, ça, c'est clairement un travail qui va être... Enfin, il va falloir y réfléchir, en fait. Parce que là, tout de suite, je ne pourrais pas vous donner de solutions. Mais c'est clair qu'il y aura plein de problématiques qui vont rentrer en compte tout au long du développement du projet. Et la restauration des œuvres, ça va être une grosse problématique, puisque justement, l'idée, c'est de restaurer l'œuvre, donc de le remettre dans son aspect original. Et donc, dans ces cas-là, effacer toute trace de ce qui a été déposé dessus récemment. Donc, ça peut être de la poussière, mais ça peut être aussi mon nom. Donc, oui, c'est un problème à prendre en compte lors du développement. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que donc actuellement, j'ai parlé des numéros qui sont inscrits au stylo BIC, au marqueur, sur les objets. Les archéologues ont un guide, si on veut, un guide de conseil pour connaître l'emplacement à peu près de où ils vont marquer le numéro d'inventaire. Donc, par exemple, pour une statuette égyptienne, imaginons, ils ne vont pas inscrire le numéro en plein milieu de la tête de la pauvre petite statue. Ils vont plutôt la marquer derrière, dans le socle, enfin, dans des endroits un peu moins visibles. Et donc, tout ça, ça fait partie d'un guide. Tous ces conseils-là font partie d'un guide du marquage archéologique. Et donc, on pourrait imaginer aussi créer un petit guide aussi pour marquer justement les objets ou les peintures ou tous les objets à des endroits qui ne nécessitent pas forcément la même restauration. Par exemple, je parlais du socle d'une statue. On n'a pas besoin de la gratter au point d'enlever mon petit marquage. Ouais, l'idée, c'est d'apposer le marquage dans un endroit adéquat.
Et alors, comment on peut faire pour rendre l'utilisation de ces étiquettes, enfin de cette encre, plus facile pour les policiers, archéologues et les conservateurs de musées?
Pour les archéologues, conservateurs de musées, je l'ai dit avant, mais c'est leur donner une solution sous forme de spray. Comme ça, il n'y aurait pas vraiment besoin de réfléchir à comment faire. Donc, il y aurait juste à appliquer, à asperger l'objet de solution. Et par contre, ouais, il y a tout aussi le travail des douaniers, puisqu'il va falloir créer une solution, un capteur qui va permettre de justement reconnaître les brins d'ADN et de lire le code. Et donc ça, c'est surtout ce sur quoi je travaille en ce moment, et créer un petit capteur qui permettrait de lire facilement les brins d'ADN.
Et du coup, il y aurait une base de données de ces codes qu'il faudrait créer en plus pour pouvoir les lire?
Soit une base de données, ouais, soit une simple correspondance entre guillemets avec notre alphabet à nous et les quatre lettres d'ADN. Donc, parce qu'actuellement, il y a des recherches aussi qui sont faites dans ce sens-là. C'est pour remplacer tous les disques durs et tous les data centers par justement des séquences d'ADN. Parce que l'idée, c'est qu'on puisse justement insérer de l'information dans ces brins d'ADN en traduisant, si vous voulez, notre alphabet, donc nos lettres, nos phrases et nos mots en code ADN, si on veut, donc avec les lettres ATCG. Et donc, il y a plein de recherches qui sont faites actuellement pour dans ce sens-là, parce que au niveau énergétique, ça serait beaucoup moins d'énergie dépensée que de stocker des données dans les data centers.
Mi-avril 2023, vous vous êtes déplacé avec votre équipe à Chypre sur le site de fouilles archéologiques de Kition à Larnaca, où sont basés vos collègues du laboratoire Isoma. L'objectif était de tester les encres et le lecteur permettant de lire le codage. Qu'est-il ressorti de cette phase de test?
Alors, ce petit déplacement-là était surtout pour tester une autre encre, du coup, pas à base d'ADN, mais à base de nanoparticules fluorescentes. Et donc, c'était un petit peu, oui, les premiers tests sur site de la solution et du capteur. Donc, c'était déjà super intéressant de voir là où travaillaient les archéologues, de voir toute leur bibliothèque remplie de morceaux de poterie, etc. C'était super intéressant à voir. Donc par la suite, on a pu justement essayer d'apposer nos solutions de nanoparticules, nos encres de nanoparticules sur les objets directement, laisser sécher bien sûr, et ensuite tester le petit capteur qu'un de mes collègues doctorants, donc Théo Duart, avait fabriqué spécialement pour lire les couleurs différentes des encres qui étaient posées sur les objets.
Et donc, vous en avez rapidement parlé tout à l'heure, mais ce projet de recherche, il est mené avec le CNRS, le laboratoire ISOMA, et le centre de recherche de l'École nationale supérieure de la police. Comment elle se passe, cette collaboration, tout au long du projet ?
Eh bien, donc, tout au long du projet, donc là, on arrive à la fin. On fait des réunions tous les 6 mois à peu près. Pendant ces réunions-là, du coup, on fait des points d'avancement sur le cahier des charges, parce qu'il a fallu définir le cahier des charges des encres, avec toutes les attentes que la police et que les archéologues avaient. Et on avait au début ce problème des deux mondes, l'archéologie et la police, qui se confrontaient, puisque les archéologues voulaient absolument que l'encre n'abîme pas les œuvres d'art, et donc que l'encre soit effaçable. Et de l'autre côté, on avait la police qui voulait absolument que l'encre soit indélébile, donc qu'elle ne s'enlève jamais. Donc c'était un peu marrant d'avoir ces deux mondes qui se confrontaient. Mais au final, l'idée, c'était du coup de créer deux encres différentes. Une à base de nanoparticules fluorescentes, donc celle qu'on a testée déjà à Chypre. Et une autre pour les biens plus importants, enfin avec une plus haute valeur culturelle et monétaire du coup, à base d'ADN pour protéger les œuvres monumentales, enfin les grosses œuvres d'art quoi, ou œuvres archéologiques. Et donc, en ce moment, donc on fait des réunions tous les 6 mois pour montrer là où on en est, ce qu'on a créé, ce qu'on a testé, si ça marche, si ça marche pas, etc., etc.
Et donc, vous l'avez dit, on arrive à la fin du projet. Il me semble que c'était jusqu'en mars 2025, si je ne me trompe pas. Vous en êtes où dans vos recherches ? Est-ce que vous avez réussi à mener ce projet jusqu'au bout ?
Alors, pas jusqu'au bout. Enfin, on n'a pas développé l'ensemble de ce qu'on pourrait développer, ça c'est sûr. Parce qu'il y a encore tellement de choses à développer. Enfin, comme on l'a dit tout au long de cette interview, il y a plein de choses auxquelles on pense pas sur le coup, et puis au final on se dit ah oui, ça serait pas bête de faire ça. Du coup, on m'a demandé un autre financement AMR pour pouvoir continuer le projet. On croise les doigts pour que ce soit accepté, mais on espère en tout cas pouvoir continuer le projet et pouvoir arriver au terme de ces recherches là, puisque actuellement, ce qui est utilisé, en tout cas, ne suffit pas ou ne suffit plus à protéger les œuvres culturelles. Et c'est bien dommage.
On arrive déjà à la fin de cet entretien. On fait un petit écart dans cet entretien qui arrive à sa fin pour mentionner le fait qu'aujourd'hui, c'est la journée des femmes et des filles de sciences. Est-ce que vous avez observé des progrès en matière d'égalité dans les sciences ?
Eh bien, oui, clairement. Et on en parlait encore cette semaine, enfin la semaine dernière au labo. On voit des progrès puisqu'il y a de plus en plus de filles qui sont intéressées par ce domaine-là des sciences. Par exemple, au laboratoire, actuellement, il y a très peu de permanents, donc de gens qui travaillent tout le temps au labo, qui sont des femmes. Alors que au niveau des doctorantes et des post-doctorantes, du coup, on est de plus en plus, on est quasiment pas loin de la parité au niveau des non-permanents, du coup. Donc oui, moi personnellement, je vois des progrès, puisqu'il y a aussi plein de choses qui sont mises en place pour justement dire aux petites filles que c'est pas parce qu'on leur dit de pas faire de sciences qu'elles ne doivent pas en faire. Si elles aiment ça, il faut absolument qu'elles essayent dans ce domaine-là. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a plus ce fossé où on dit vraiment aux filles de faire d'autres métiers et de se concentrer sur d'autres domaines. Donc moi je suis plutôt contente de ces progrès-là.
certains domaines scientifiques se sont plus féminisés que d'autres. Est-ce que c'est le cas de vos domaines de recherche ?
Alors, non, pas trop. Ce domaine-là des nanoparticules est plutôt masculin pour l'instant. Mais vu le nombre de doctorantes qui est au labo, j'espère que ça va changer et qu'on va peut-être atteindre la parité dans ce domaine-là.
Merci beaucoup Margot Gaillard d'être venue à notre micro. On le rappelle, vous êtes doctorante à l'Université de Technologie de Troyes et membre de l'unité de recherche Lumière, Nanomatériaux, Nanotechnologie qui coordonne le projet NOSE. Bonne journée à vous.
Merci beaucoup de m'avoir invité pour cette interview et bonne journée à vous aussi. Merci encore.
Merci beaucoup.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
C'est pas faux, c'est bientôt terminé. Mais avant de se quitter, voici l'agenda de la semaine. Jeudi 13 février de 14h30 à 16h30, rendez-vous découverte à la ferme Saint-Vaste à une vingtaine de milles de Caen. Venez rencontrer Mathilde et Benoît Lefebvre, producteurs en lin depuis plusieurs générations. Ils vous présenteront leur exploitation agricole pour vous aider à comprendre la culture du lin, sa transformation et ses utilisations. La visite est à 7€, vous pouvez réserver en ligne.
Jeudi 13 février, toujours la bibliothèque Alexis de Tocqueville vous invite à découvrir la philosophie contemporaine. De 18h30 à 20h, la Société Normande de Philosophie vous proposera d'explorer deux questions d'actualité, le libéralisme à travers l'ouvrage de Tristan Garcia, Laisser être et rendre puissant, et le langage en démocratie avec la parole du mille pattes de Jean-Paul Jouarry. C'est en entrée libre, on le rappelle, ce jeudi de 18h30 à 20h.
Et enfin, mardi 18 février de 14h30 à 16h30, le musée d'initiation à la nature du CPIE Vallée de l'Orne vous donne rendez-vous à l'Abbaye aux Hommes pour une mission mammifère. Devenez expert en nature et apprenez à reconnaître les traces de passage et les cris des mammifères locaux, chauves-souris, renards, hérissons, blaireaux, chevreuils, etc. Une animation à faire en famille à partir de 6 ans. C'est gratuit, mais attention, la réservation est obligatoire. Vous pouvez la faire par mail à réservation@cpievdo.fr ou bien par téléphone au 07 83 10 01 29. C'est pas faux, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes en podcast sur phoenix.fm.
Merci à Emile à la technique. On se retrouve la semaine prochaine et dans quelques instants, rendez-vous avec Bastien pour la Méridienne. Passez une bonne journée sur Radio Phoenix.